Donc voilà, quelques mots d'introduction. Donc Philippe Girard, alors on va pas se vouvoyer parce que je le connais quand même depuis quelques bonnes années. Je vais pas y arriver. Donc il est donc basé sur Marseille, ça vous avez compris, il y tient beaucoup. Donc je tiens quand même à le dire, il est venu là, donc lui c'est la grande expérience, hein, le Nord, un truc incroyable. Je vous promets, tout juste il n'a pas pris des après-ski, mais ce n'était pas nécessaire. Donc il est acteur de la RSE depuis 2004, c'est quand même intéressant, parce qu'en 2004, acteur de la RSE, qui en parlait, ben, il n'y en avait pas beaucoup, alors peut-être sous une approche un peu différente. Et justement, il est là pour nous expliquer. Il a une association également, il est chef d'entreprise. Et puis, le cœur de son activité, il est animateur de débat. Donc, vous verrez, vous avez déjà vu, hein, c'est un bon débatteur, consultant et coach également. Donc, il est diplômé du Collège des hautes études du développement durable. Donc voilà, il a repris son cahier et il est retourné se former. Et puis, il est un ancien membre du César PACA en tant que personnalité qualifiée expert en RSE. Donc voilà, donc il sait de quoi il parle, il connaît le sujet. Justement, c'était intéressant et nous, c'était une opportunité qu'il puisse venir pour nous éclairer aussi sur d'autres approches de la RSE, échanger, et toujours dans l'idée que voilà, il faut que ce soit aussi un endroit, la plateforme, où on puisse confronter les idées, confronter les expériences et en tirer le meilleur. Donc voilà, une petite introduction. Donc là, actuellement, on est en train de préparer la 13e édition donc des trophées de la RSE. Moi, j'aimerais savoir dans un premier temps comment tu as eu cette idée depuis, donc dès 2004, et alors que personne ne parlait de la RSE. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et puis voilà, explique-nous un petit peu cette aventure, déjà au niveau de ces trophées RSE. Puis après, on parlera du reste parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, mais déjà, on va attaquer les trophées.
Bon, merci pour cette présentation. Et puis merci donc à être CPME et la Chambre de commerce de me recevoir. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est qu'en fait, en 2003, j'étais directeur d'une agence de presse. J'ai été licencié et après je me suis dit mais c'est pas possible, on entend toujours parler mal, enfin les syndicats parlent toujours mal de l'entreprise et les entreprises parlent toujours mal des syndicats, donc il n'y a pas un endroit où ça se passe bien, il n'y a pas un endroit, une entreprise où ça se passe bien, et à chaque fois qu'on écoute un syndicat ou un chef d'entreprise qui parle l'un de l'autre, c'est toujours pour critiquer, jamais pour nous montrer le chemin. Donc j'ai été voir les syndicats et je leur ai dit, voilà, est-ce que tous les patrons sont vraiment des mecs pas bien et peu recommandables? Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, montrez-nous quels sont ces bons patrons. Et donc, on a créé un questionnaire ensemble avec tous les syndicats salariés. Même à l'époque, il y avait la CGT, donc CFE-CGC, FO, CFDT, CFTC, plus CGPME, enfin CPME, et le MEDEF. On s'est posé la question en 2003. Qu'est-ce que c'était les qualités d'un bon chef d'entreprise? Et donc, on a créé les premiers trophées qui étaient des trophées d'éthique sociale à l'époque. Parce que la RSE, on ne savait même pas que ça existait, quoi. Et justement, quand on a créé ces trophées qui ont drainé 450 personnes dans un théâtre à l'époque, parce que j'ai fait ça avec très peu de moyens, mais mon expérience jeune chambre économique m'avait appris à préparer et construire des projets. Le préfet de région est venu, il a dit c'est quelque chose qui se fait nulle part ce que vous faites, des syndicats qui récompensent des patrons, on n'a jamais vu ça. C'est là d'ailleurs que la CGT s'est fait taper sur les doigts l'année d'après parce qu'on a dit non, c'est pas possible, c'est les salariés qui devraient être récompensés par les patrons, on ne peut pas récompenser des patrons. Voilà, donc l'homme du département qui avait dit ok s'est fait retoquer par la région qui lui a dit on ne peut pas continuer ça. Voilà, donc c'était très intéressant et moi je me suis pris pas mal de, on m'a traité de rouge, de communiste, de plein de choses. Parce que c'est, travailler avec les syndicats, c'était quelque chose de pas noble et que forcément il y avait suspicion derrière sur ce que je pouvais être ou faire. Et puis j'ai des entreprises qui m'ont dit mais non, nous on fait du bon travail dans notre boîte et on a envie de le faire savoir. Et donc c'est comme ça que les trophées ont été lancés. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit tu sais, il y a un truc qui est en train d'arriver qui s'appelle l'ARSE, regarde, jette un coup d'œil. Et puis j'ai jeté un coup d'œil, je suis tombé dedans, j'ai lu plus de 1000 pages de tout ce qui se tournait en Europe et tout ça, j'ai dit mais c'est l'avenir. Et on a créé les premiers trophées RSE donc en 2005 et depuis là on est notre 13e édition, donc toujours le même principe, syndicats salariés patronaux, on a rajouté la région, la CCI qui est partenaire aussi avec nous, l'ADEME qui sont dans notre jury et qui récompense les entreprises de plus de 5 salariés qui ont la meilleure politique de responsabilité sociétale. C'est quoi la RSE ? C'est des entreprises qui produisent des richesses. Ça, c'est ma définition, hein, parce que quand on prend la définition européenne, elle est imbitable. Alors, aujourd'hui, ils l'ont rendue à peu près compréhensible, mais elle est, nous, on a dit, ce sont des entreprises qui produisent des richesses en respectant l'homme, donc c'est toute la politique sociale, l'environnement, le territoire et les parties prenantes avec lesquelles ils travaillent. Et donc, on a créé un questionnaire de toutes pièces. On l'a créé aussi avec l'ARACT, donc les syndicats, l'agence régionale des améliorations de conditions de travail, avec l'IMS aussi, FAS. Enfin, on a mis pas mal d'interlocuteurs autour de la table. Et puis, petit à petit, ce questionnaire a migré aujourd'hui pour aller vers les premières marches, vers l'ISO 26000, parce qu'il est inutile que les entreprises remplissent des tonnes de questionnaires. En remplissant notre questionnaire, ça leur donne une avance sur l'ISO 26000, et aujourd'hui, le label y est engagé. C'est notre initiative qui a donné pas mal d'idées à la FNOR pour se dire, bah, tiens, voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire sur les trophées.
Maintenant, ce qu'on se disait, c'est également voir un peu l'évolution que tu as pu voir, parce que 13 ans d'historique sur la RSE, c'est quand même intéressant de se dire, voilà, aujourd'hui, on en parle beaucoup, et tout le monde ne met pas la même définition derrière. On ne sait pas toujours, et encore pour beaucoup, on ne sait pas exactement ce que c'est que la RSE, mais en 13 ans, déjà, quelles sont les évolutions, et puis quelles sont les évolutions que tu vois venir
en fait,
sur la RSE.
Je pourrais parler du forum aussi. Parce que, et après répondre à cette question, dans le sens où on a créé un forum aussi au départ. Quand on a créé un forum au départ, on était sur 4 questions sociales. Je me rappelle, il y avait la lutte contre les discriminations, il y avait l'égalité homme-femme. Après les 2 autres, je ne me rappelle plus. Et on devait avoir une question environnementale. Donc ça veut dire que quand même, la RSE au départ, elle était très sociale et très peu environnementale. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont équilibrées. Et puis on a dû faire un peu dans notre forum... Les premières saisons de notre forum, parce qu'on est à notre 3e forum national, mais on a fait 8 éditions d'un forum régional au départ. Et on a fait de l'évangélisation, c'est-à-dire qu'on a expliqué pourquoi il fallait faire de la RSE. Et c'est vrai qu'à l'époque, la majorité des entreprises disaient « mais ça ne me concerne pas, ça ne concerne que les grandes boîtes, moi j'en ai rien à faire de ça, ça me coûte de l'argent, ça me prend du temps et ça ne me rapporte rien ». Et nous, justement, tout le travail qu'on a voulu faire dans notre asso et sur la région, c'est citer pour inciter. Citer ce qui marche pour inciter les entreprises à suivre l'exemplarité. Arrêtons les grands messages, arrêtons les grandes messes. Maintenant, on monte de l'exemplarité. Et donc, on a cherché sur notre région des boîtes exemplaires. Et ce que j'adore, moi, dans la RSE, c'est pour ça que je suis un fou de la RSE et que j'adore vous en parler, c'est que... Dès qu'il y a quelqu'un qui me dit « Non, mais d'accord, mais nous, ça ne nous concerne pas, nous, on ne peut pas le faire, ce que vous avez dit là, ça concerne telle entreprise, etc. », vous avez exactement le contre-exemple de l'entreprise qui l'a fait. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, ça n'est absolument pas une question de moyens. Et Michel Rocard, à l'époque, j'ai eu la chance d'animer un débat avec Michel Rocard, qui parlait déjà de RSE au Centre des jeunes dirigeants et qui parlait de responsabilité spirituelle de l'entreprise. Et en fait, il parlait d'un état d'esprit. Et en fait, la RSE, c'est ni plus ni moins un état d'esprit. C'est comment le chef d'entreprise, il a envie de diriger sa boîte. C'est avec quelle idée il a de diriger sa boîte. Est-ce que pour lui, d'avoir des salariés heureux, c'est important, c'est pas important ? Est-ce que pour lui, respecter l'environnement, c'est important, c'est pas important ? Est-ce que s'inscrire sur son territoire, c'est important, c'est pas important ? Et faire travailler collectivement ses salariés, ses fournisseurs, les collectivités locales, etc., c'est important. Voilà. Et en fait, vous avez plein de chefs d'entreprise qui, pour eux, c'est pas important. C'est pas mon métier. D'ailleurs, tout le hiatus de la responsabilité sociétale des entreprises est arrivé sur le mot responsabilité. À quel moment la responsabilité commence, à quel moment elle s'arrête ? À quel moment un chef d'entreprise est responsable ou pas ? Est-ce que participer au bonheur de salariés, c'est de sa responsabilité ? Est-ce que faire en sorte que ses salariés travaillent dans des bonnes conditions de travail et soient bien assis, etc., ça fait partie de sa responsabilité ? Et vous en avez plein qui au départ ont dit « mais ça ne me concerne pas, c'est n'importe quoi, déjà on leur donne un boulot et on se bat pour leur donner un boulot, c'est en plus, il faut travailler sur leur bien-être, les pauvres chéris, ils sont stressés, les conditions de travail, en plus faire attention à notre eau, à notre environnement, on ne va pas s'en sortir, on ne peut pas nous demander tout ça ». Et justement l'Europe, si elle a créé la RSE, c'est parce qu'on demandait toujours aux collectivités et à l'État de faire des choses, mais jamais aux entreprises. Et donc l'entreprise, elle avait le blanc-seing. Et elle faisait à l'époque des opérations, elle faisait un peu des opérations, des entreprises humaines, C'est-à-dire, je finance un handicapé, je finance un bateau à travers je ne sais pas quoi, je montre que je fais quelque chose de bien, mais derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que mon entreprise à l'intérieur, je ne fais pas exactement les choses bien. Voilà. Et grâce à Internet, qui a commencé à parler justement des réputations des entreprises, tout ça a changé. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient croire qu'ils faisaient des choses bien, d'un coup, il y a des gens qui... Et pas beaucoup, hein. Il y avait 2-3%. Il suffit des petites associations, les gens qui ont créé les prix Pinocchio, etc., et qui commençaient à dire, attendez, vous dites ça, mais vous faites n'importe quoi. Et là, d'un coup, branle-bas le combat, on ne peut plus dire n'importe quoi, on ne peut plus faire n'importe quoi. Et ce qui est incroyable aujourd'hui dans la RSE, c'est que j'entends des entreprises qui disent, on n'en peut plus. On n'en peut plus de toutes ces normes qui nous obligent à travailler normalement et à faire des choses normales. Voilà. C'est-à-dire que vous avez Rich qui est sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rich, la nomenclature européenne qui informait sur tous les produits que les sociétés ne devaient plus mettre dans leurs composants parce qu'ils étaient nocifs, soit pour la terre, soit pour la santé des gens. Et là, il y a eu un branle-bas de combat. Ils ont eu 4 ans pour faire ça. Il y a eu un branle-bas de combat énorme des entreprises qui ont dit « mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas ». Et Rich est tombé. Et là, c'était la catastrophe pour les entreprises. Et ce Rich illustre bien l'état d'esprit des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises qui se sont dit « Ok, on va faire de cette contrainte une opportunité ». Et donc, il y a des gens qui ont réfléchi. Et c'est comme ça que des gens qui ont créé des bureaux et tout ça, et qui n'ont plus le droit d'utiliser des colles qui n'étaient pas bonnes, etc., ben, ils ont inventé l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'ils ont inventé qu'on pouvait couper en plein de parties un bureau. Et que finalement, on n'a pas besoin, quand il y a une latte du bureau qui se cassait ou une latte d'une chaise qui se cassait, de remplacer toute la chaise, de remplacer tout le bureau. Et on a fait la même chose sur les moquettes. Voilà, ça a été une réflexion qui est venue grâce à ça. Et puis, vous avez les autres qui n'ont pas arrêté de râler et ont dit non, on va se fédérer, on va empêcher, on va continuer d'utiliser nos cols pourris. Et puis, voilà, etc. Et voilà. Et manque de peau, eh ben, ceux qui ont essayé d'aller de l'avant, ont essayé de penser autrement, eh bien, ils sont passés. Et ceux qui n'arrêtent pas de dire « c'est pas possible, on ne peut pas y arriver », etc., eh bien, ils n'existent plus aujourd'hui sur le marché. Voilà. Et la RSE, c'est vraiment ça. La RSE, c'est vraiment une entreprise qui comprend que c'est une source d'innovation terrible. C'est-à-dire impliquer ses salariés au sein de son entreprise. Se poser des questions pour réduire son impact environnemental, eh bien, c'est grâce à ça que maintenant, quand vous prenez une bouteille, presque elle vous tombe de la main, parce qu'il y a 30% de matière plastique qu'on a réduit. On n'avait pas besoin de toute cette matière plastique pour avoir une bouteille d'eau. Non seulement ça fait économiser de la matière première qu'on extrait de la terre, mais ça fait économiser de l'argent à toutes ces bouteilles d'eau parce qu'il y a 30% de moins de matière plastique à acheter. Et en même temps, dans les emballages, vous mettez plus de bouteilles d'eau, donc ça économise aussi des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et tout est comme ça. Et toutes les boîtes qui font de la RSE, toutes les boîtes qui réfléchissent à comment je peux améliorer, comment je peux rendre heureux mes salariés, et puis... soit dit en passant, c'est incroyable, mais un salarié heureux travaille mieux qu'un salarié malheureux. Alors, il y en a certains qui ont découvert ça et qui se sont dit, en plus, c'est profitable. Donc, réfléchir sur comment rendre un salarié heureux, réfléchir à comment je peux réduire mes impacts sur l'environnement et réfléchir à qu'est-ce que je peux faire sur mon territoire, il y a plein de boîtes qui ont pris le train. Et souvent, j'entends des gens qui me disent, mais les entreprises, elles ne peuvent pas faire tout ça, les petites boîtes, elles sont écrasées, etc. Oui, vous avez raison, mais il n'y a plus le choix. Ça veut dire qu'on fait ces constats-là, mais aujourd'hui, il n'y a absolument plus le choix. Donc, quand tu me demandes comment les choses ont évolué, c'est-à-dire au départ, on a expliqué aux entreprises pourquoi il fallait faire de la RSE. Après, on leur a expliqué comment on fait de la RSE. Et aujourd'hui, on n'est même plus sur la RSE. On est sur les nouveaux modèles économiques. Parce que la RSE, elle est à la source des innovations qui ont créé, je vous l'ai dit, l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit plus, tiens, je vais continuer à créer, à créer, à créer, et puis je m'en fiche de ce qui se passe à la fin de vie. Maintenant, je réfléchis à l'usage. Voilà. Est-ce que tout le monde a besoin d'une perceuse ? Est-ce que tout le monde a besoin d'une voiture ? Est-ce que tout le monde a besoin d'une machine à laver, d'un fer à repasser, etc., etc. Mais quand vous voyez Darty ou Boulanger à l'époque, quand il y a VentePrivé.com qui sort, VentePrivé.com prend 30% du marché à Boulanger. Et c'est parce qu'ils ont pris 30% du truc qu'à un moment, ils ont réfléchi, que se passe-t-il ? Il faut faire quelque chose. Parce qu'eux, ils attendaient que les clients viennent à Boulanger choisir leur machine à laver, leur télévision, etc. Et c'est la première fois qu'ils ont réfléchi à leur cible des clients. Et Boulanger est vachement intéressant parce qu'à ce moment-là, ils se sont dit, ah mais tiens, les personnes âgées, etc., a priori, sont fidèles, eux, ils ont besoin d'acheter, etc. Les classes, les 30-40 ans, pareil, mais les jeunes, ils n'en ont pas besoin. Donc d'un coup, on passe à l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on leur loue une machine à laver, on leur loue quelque chose, et après, ils nous le ramènent. Et en plus, comme ils nous le ramènent, on peut réutiliser nous-mêmes nos produits, le recycler. Et donc, on a développé des filières de recyclage. Mais Boulanger, quand il a vu qu'il avait une fidélisation de sa clientèle particulière chez les seniors, c'est aujourd'hui, grâce à ça, qu'il est à fond sur les domotiques. C'est-à-dire, on a nos seniors, on les a ciblés, et maintenant, on peut leur vendre d'autres produits, donc la domotique, la santé, et c'est pour ça aussi qu'ils se lancent dans des maisons de retraite, etc. Alors que jamais ils y auraient été, parce qu'ils attendaient. Donc c'est bien la preuve qu'en réfléchissant sur sa manière d'utiliser un produit, on peut y trouver plein de sources d'innovation. Et c'est comme ça que l'économie de la fonctionnalité est née. Elle est née parce qu'à un moment, des gens ont été attaqués sur un marché, et ils ont commencé simplement à avoir la réflexion sur l'utilisation du produit. Et ça, c'est la RSE. C'est la RSE, c'est le volet environnemental. C'est comment je peux réduire la matière première de mon produit, comment je réduis la fin de vie et que la fin de vie puisse revenir et pas être un déchet inutilisable. Voilà. Ensuite, on a inventé l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est justement comment je peux récupérer des sources de chaleur. Aujourd'hui, les trains, quand ils arrivent à quai dans certaines gares, c'est ce qui permet de chauffer les bâtiments et les surfaces qui sont autour de la gare. Voilà, parce qu'il y a cette récupération de chaleur. Voilà, donc l'économie circulaire, et puis comment on réutilise les déchets, comment on les valorise, etc. Et il y a des filières entières qui partent là-dessus. Et puis l'économie collaborative et l'économie de partage avec Blablacar, avec Airbnb, etc. Donc la RSE, elle est à la source de toutes les innovations qui existent aujourd'hui, de tous les nouveaux modèles économiques. Et vous imaginez, quand vous êtes en train d'expliquer à des chefs d'entreprise qu'est-ce que c'est la RSE, alors que vous avez des chefs d'entreprise qui en sont déjà à réfléchir à comment ils vont transformer leur entreprise. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut continuer à produire et à être comme elle est aujourd'hui. C'est impossible. Voilà. Donc la question même de se dire, est-ce que je fais de la RSE ou je ne fais pas de la RSE, c'est demain, est-ce que tu veux vivre ou pas. Voilà. Et donc soit tu es un résistant et que tu vas te dire non, c'est moi tout seul qui vais dompter le marché. Ou alors, à un moment, vous vous dites, le marché, il a ce sens-là et il faut que je prenne le train rapidement. Voilà. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait. On n'est plus dans pourquoi la RSE, on est toujours dans comment on peut encore améliorer des pratiques et tout ça, mais on est surtout, regardez tous ces nouveaux modèles économiques qui sont en train d'apparaître, dans lesquels vous n'êtes pas. Et voilà, aujourd'hui, on ne vend plus la lumière, on vend du confort visuel. Aujourd'hui, Danone ne vend plus des yaourts, ils vendent de la santé. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui ne vend pas du sens. La RSE, c'est donner un sens aux choses. La RSE, c'est l'anticipation des risques. Et aujourd'hui, il y a un risque majeur, c'est la génération Y et Z qui vient et qui, cette génération-là, a besoin de sens. Vous lui dites plus, tu fabriques ça, tu ne cherches pas à comprendre pourquoi, tu fais ce que je te dis. Ça marche plus. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise se plaignent en disant, oh là là, ces jeunes, ils sont chiants, ils n'arrêtent pas de sans arrêt la ramener, etc. Et puis, vous avez d'autres chefs d'entreprise qui l'ont compris. Et comme par hasard, les jeunes sont beaucoup moins chiants. C'est pour ça que je vous dis, c'est extraordinaire parce que grâce à l'effet d'exemplarité, grâce à cette dynamique que vous pouvez mettre en place, si par hasard vous auriez l'idée de créer des trophées ici ou de faire quelque chose dans ce domaine-là, c'est génial parce que vous n'avez plus besoin de discours. Vous prenez simplement ces gens qui sont sans arrêt en exemplarité, qui pensent complètement autrement et qui montrent le chemin aux autres. Et vous avez des gens de votre région qui montrent le chemin aux autres. Et nous, c'est fort de cette expérience qu'à un moment, on va la tourner un petit peu au rond, parce que quand on commence à RSE, il n'y a pas grand monde qui faisait des choses. Et à force de faire des choses, on a donné cette dynamique à notre région. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont parties là-dedans. La région a décidé d'aider financièrement des entreprises pour avoir des consultants, faire des trucs, etc. Et maintenant, on a créé notre forum national pour faire venir sur Marseille les entreprises de la France entière et de mettre en avant ce qui se passe dans les territoires pour que tout le monde s'en inspire. Non pas de Marseille, mais de toutes les innovations, de toute cette réflexion qui crée le monde de demain.
Ouais, ça, c'est intéressant. Tout est intéressant, c'est passionnant, évidemment. Mais justement, on parlait tout à l'heure de notre présence au Forum Reset. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ces événements, concrètement, comment ils se passent? Et puis, parce que moi, j'espère bien qu'à la troisième édition, non, tu es en train de préparer la quatrième. Donc, à la quatrième édition, évidemment, au moins tous ceux qui sont dans la salle et certainement beaucoup plus, tous ceux qui ont pas pu venir ce soir, se joindront à nous et puis on fera un bus ou un train, on trouvera quelque chose de responsable pour y aller. Et voilà, ça serait intéressant, mais parle-nous-en un peu.
Donc, le trophée, voilà, je vous en ai parlé. Ces exemplarités qu'on avait, qu'on mettait en avant grâce au trophée, effectivement, nous, on a un vrai problème, et on a toujours ce même problème, c'est comment on peut encore plus les valoriser. Et donc, on avait créé ce forum qui permettait de valoriser aussi nos lauréats, pas simplement en l'espace d'une soirée, parce que la différence aussi des trophées qu'on a créés par rapport à d'autres, c'est que souvent, vous remettez un prix, vous ne comprenez absolument pas ce qu'ils ont fait. Nous, on passait un quart d'heure avec le lauréat pour comprendre quelle était sa dynamique d'entreprise, on mettait en avant, mais c'est un vrai travail de communication, quoi. C'est-à-dire que le gros problème des trophées, souvent, c'est que, bon, voilà, on donne une récompense, on pense que c'est une fin en soi. Mais nous, notre message, c'est vraiment de dire, oh les gars, regardez ce qui se fait là, vous pouvez faire pareil. Et chacune des personnes qui viennent à notre soirée des trophées, normalement, ils repartent avec quelque chose. En se disant, ah ouais, tiens, je pourrais faire ça, ça ne me coûte pas grand-chose. Je vous dis une bêtise, hein, mais vous avez une entreprise, à un moment, quand elle faisait trop de kilomètres, enfin, les émissions de gaz à effet de serre, etc., et qu'elle donnait ses notes de frais, elle recevait un smiley avec un sourire ou elle recevait un smiley avec un truc négatif. Ça ne coûte rien, hein, mais ça crée un état d'esprit. Une entreprise aussi pour le stress, elle avait fait des couleurs vertes, rouges et oranges. Ça veut dire que chaque salarié devait envoyer, mais certainement pas à son directeur hiérarchique, mais à un autre directeur, s'il a aujourd'hui été vert, orange ou rouge. Et forcément, quand on s'apercevait qu'il était rouge ou orange, on pouvait réagir. Voilà, des petits trucs qui ne coûtent rien. Et j'en ai 15 000 à vous raconter, puisque j'ai 70 lauréats et plus toutes les ce que j'ai vu dans le forum. Voilà, tout ça, on voulait le mettre quelque part et que les gens puissent prendre du temps pour comprendre, pour analyser, pour partager, pour se rencontrer et créer des émulations. Et donc, on a créé ce forum pour ça. Et donc, aujourd'hui, ce forum national, le but est de mettre en avant l'innovation, de mettre en avant l'ancrage territorial et de mettre en avant les nouveaux modèles économiques avec la RSE, mettre en avant les territoires, les entreprises, au travers de 9 ateliers, de 2 plénières, de 4 mini-conférences. On a une soixantaine de stands et on a créé un village d'innovation aussi. Et ça, c'est nous qui le payons. C'est-à-dire qu'on fait venir une vingtaine d'innovations de la France entière, qu'on a quelqu'un qui travaille là-dessus, qui essaye de les repérer, qui sont ces innovations, ces petites startups qui ont les idées de demain pour faire avancer notre monde un peu mieux. Et donc, on les invite à venir et présenter leur innovation. Voilà à peu près ce qu'on fait sur le forum. Ça a drainé 1150 personnes. L'année dernière, on a eu 1300 personnes, mais plutôt en mars. À Marseille, faire quelque chose en juin, fin juin, avec le soleil, avec tous les séminaires et les salons, c'était compliqué. Donc on reviendra, prochain salon, c'est le 10 avril. Voilà, vous pouvez noter la date si vous le souhaitez.
Voilà. Nous, on l'a noté. Hein.
Très bien.
Alors on t'a affiché, t'as le retour écran, expert en valorisation de la RSE. Alors on y allait. Hein. Et c'est comme ça que tu te présentes. Aujourd'hui, voilà. À travers cette expérience, maintenant 13 ans, dans 13 ou 14 ans dans la RSE, qu'est-ce que tu fais concrètement auprès des entreprises en termes de valorisation de la RSE ?
Alors, je passe mon temps à me battre avec les entreprises et je me passe mon temps à me battre avec des chefs d'entreprise, mais de moins en moins, parce que ça y est, ils commencent à comprendre, à leur expliquer que faire de la RSE, c'est bon pour l'intérieur. En fait, le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que beaucoup de chefs d'entreprise fassent des thérapies. Parce qu'en fait, ils ont des peurs. Ça veut dire que la RSE, c'est quoi ? C'est de demander à ses salariés leur avis. Donc, c'est très dangereux. Parce que si vous n'êtes pas équipé et si vous avez peur, vous ne demanderez jamais l'avis. Et deuxième gros problème aussi des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Parce que le monde est en pleine mutation aujourd'hui et il y a plein de boîtes, elles ne savent pas où elles vont. La Poste, elle commence à savoir à peine où elle va. Et encore. Il n'y a pas, les hôtels aujourd'hui ne savent plus où ils vont. Il n'y a pas un secteur d'activité. Vous regardez Carrefour aussi, vous regardez toutes les grandes surfaces, etc. Il y a un énorme truc là qui débarque d'Espagne. Je me rappelle plus la marque, qui sont des énormes entrepôts, sorte de où vous venez et c'est deux fois moins cher parce que c'est des économies d'échelle énormes. Bon, ben voilà, ils sont pas préparés. Voilà. Alors Carrefour est en train de réfléchir que quand vous viendrez dans leur magasin, il va y avoir des saveurs, il va y avoir des senteurs, pour renouer le plaisir et que les personnes viennent, voilà, et que les gens se baladent dans ces senteurs, dans ces saveurs, etc. Voilà. Donc tout le monde est largué. Donc aujourd'hui, le chef d'entreprise ne sait pas où il va et c'est normal. Le monde est en pleine mutation. Pour moi, on est en train de vivre, on a le privilège de vivre une des époques les plus palpitantes, les plus passionnantes que beaucoup de gens n'ont pas vécues. Les périodes les plus palpitantes, c'est les trois révolutions industrielles. Il y en a eu trois. Nous, on est dans la troisième. Donc, on a cette chance de pouvoir voir toutes ces transformations, le monde qui est en train de se construire de demain. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le chef d'entreprise, il a besoin d'être guidé. Et en même temps, il est pas guidé. Mais par contre, il est guidé par des choses. C'est toutes les normes et c'est toutes les réglementations qui débarquent. Et qui deviennent de plus en plus compliquées à suivre. Je vous explique. En 2004, il y a eu la loi NRE, les nouvelles régulations des entreprises. La loi NRE, elle demandait aux entreprises cotées en bourse, de faire un bilan sociétal. Mais il n'était pas évalué, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient dedans, etc. Grenelle 2, donc ça c'est 2014, je crois, ou 2013, Grenelle 2, là on commence à dire, c'est plus les entreprises cotées en bourse, c'est toutes les entreprises de plus de 500 salariés, de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui doivent le faire. La première chose que les entreprises ont demandé, comme elles se sont dit, nous, comme on ne fait pas grand-chose, par contre, nos fournisseurs, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Et là, ils ont demandé aux fournisseurs de montrer patte blanche. Voilà. Et aujourd'hui, quand j'entends, moi, des petites entreprises ou des moyennes entreprises qui disent, moi, ça ne me regarde pas, etc., ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que toutes les boîtes du CAC 40 aujourd'hui demandent à leurs fournisseurs de montrer patte blanche parce que eux-mêmes, ça leur évite de montrer vraiment tout ce qu'ils font. Donc, ils demandent à leur PME d'être nickel. Et donc, la PME, comme elle doit être nickel, elle ne pourra travailler qu'avec des TPE qui sont nickel. Et aujourd'hui, vous avez quand même deux lois qui sont sorties, dont peu de gens parlent, qui poussent encore plus loin le bouchon. C'est la loi de la transition énergétique en 2015, d'accord, qui demande un rapport d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que là, ça va dans le sens des marchés publics aussi, parce que peut-être que l'histoire fera que on s'apercevra qu'on va demander vraiment à des gens de proximité de produire, parce que on a une politique de transport, une politique de santé qui va nous faire exploser quoi. Donc cette loi de la transition énergétique oblige les boîtes qui font 500 salariés toujours et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à faire ce rapport d'émissions de gaz à effet de serre qui est noté, qui est évalué. Et il y a une deuxième loi qui est la loi du devoir de vigilance. Et la loi du devoir de vigilance, elle est énorme. Elle demande aux entreprises, toujours les mêmes, d'accord, de faire une cartographie de tous leurs fournisseurs. Et de faire une cartographie, une évaluation, une action corrective auprès de leurs fournisseurs. Toutes les boîtes du CAC 40, d'accord, elles font toutes de la RSE. Okay, il y en a 90 qui demandent des évaluations à leurs fournisseurs. Il y en a 80% qui demandent des audits. Il y a 79% qui demandent des actions correctives et il y a 30% des entreprises qui changent de fournisseur. Voilà aujourd'hui les chiffres officiels. Et il y en a 48% qui ont fixé des objectifs pour guider leur politique d'achat et de relations fournisseurs. Et attention, la cartographie des fournisseurs, elle ne s'arrête pas à dire « mon fournisseur de mon entourage de proximité ». C'est « vous êtes mon fournisseur, mais vous, derrière, c'est qui les autres fournisseurs ?» Donc, il y a des catégories de rang 1, des catégories de rang 2, des catégories de rang 3, des catégories de rang 4. Et là, excusez-moi, la petite entreprise, la toute petite entreprise, elle est là-dedans, quoi. Et si elle ne fait pas de la RSE, donc, pour revenir à soit la valorisation, et si elle ne valorise pas sa politique, si elle ne formalise pas sa politique, aujourd'hui, elle est morte. Voilà, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Je ne suis pas alarmiste, c'est les faits. Ça veut dire que si aujourd'hui, une entreprise, elle peut encore continuer... parce qu'elle est dans un écosystème qui n'est peut-être pas encore assez nourri et qui n'est pas encore assez fort. Mais il y a des écosystèmes et donc des filières métiers qui sont de plus en plus armées. Tout le secteur de la propreté, par exemple, ils ont sorti des tas de labels, etc. Il n'y a plus une seule entreprise qui peut avoir un marché, qu'il soit public, privé ou s'ouvrir quoi que ce soit, s'ils n'ont pas montré patte blanche sur tout un tas de systèmes. Voilà. Donc, et de l'autre côté, vous avez Internet. Vous avez Internet, ce qu'on appelle les consommateurs. C'est-à-dire que avant, moi, quand j'ai commencé la RSE, il y avait 5% de consommateurs. C'est-à-dire qu'il y avait 5% de gens qui achetaient, qui faisaient un acte utile, social ou environnemental, 5%. Aujourd'hui, on a 45%. Voilà. Il y a 45% des gens qui n'achètent pas ou qui achètent en fonction d'une problématique sociale ou d'une problématique environnementale et qui la regardent. Et tout ça, eh ben, vous n'avez plus le choix. Vous êtes cernés, les entreprises sont cernées par cette demande-là. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils essaient de répondre à ces normes, mais sans avoir une vision et sans savoir où est-ce qu'ils vont. Voilà. Donc, une des priorités, c'est d'essayer de dessiner cette vision. Et pour dessiner cette vision, eh bien, c'est déjà de voir quelles sont les richesses de l'entreprise. Voilà. L'entreprise, elle est assise sur des tonnes de richesses. Et moi, je bosse pas mal avec des boîtes où j'arrive et je fais un diagnostic des richesses et de toutes ces richesses dormantes qu'elles pourraient exploiter, qu'elles pourraient valoriser. Et voilà. Mais pour ça, il faut que le chef d'entreprise, c'est pour ça que je disais en rigolant, mais sans rigoler, c'est pour ça que je suis devenu coach, c'est parce que moi-même, pour faire avancer un chef d'entreprise, je rentrais dans ses peurs. Et à force de rentrer dans ses peurs, eh ben voilà, je l'ai coaché. Et donc, j'ai appris à devenir un vrai coach pour essayer de faire le mieux possible mon travail. Parce que c'est normal. Ça veut dire que d'un coup, quand tu lui dis, tu vas interroger tes parties prenantes et tu vas essayer de voir tout ce qu'ils ont à t'apporter. Voilà, l'Occitane a gagné des millions d'euros simplement parce qu'il a interrogé les gens qui préparaient les crèmes. Et ils ont réalisé qu'en fait, en changeant le sens de production de certaines crèmes, ils utilisaient beaucoup moins de polluants, beaucoup moins de liquides, beaucoup moins de scie. Mais quand c'est sur des millions de tonnes, ça fait des économies énormes. Voilà. Et toutes ces entreprises-là ont commencé à comprendre ça, pour celles qui ont touché. Donc moi, mon travail, c'est à chaque fois d'expliquer à l'entreprise tout ce qu'elle gagnerait, au contraire, à regarder ses richesses, à faire confiance à ses parties prenantes, à les fédérer, à ne plus travailler seule. Aujourd'hui, une entreprise ne peut plus travailler seule. Elle doit travailler dans un écosystème. Et toutes ces entreprises qui me disent « moi, je n'ai pas le temps, je suis dans mon travail, je n'ai pas le temps de regarder ailleurs, je n'ai pas le temps d'être dans une fédération, je n'ai pas le temps d'être dans un groupement », pour moi, elle est trop seule et elle est amenée à disparaître. Romain Ferrari, qui est à mon forum, Romain Ferrari, c'est le mec qui a créé les bâches. Au départ, c'était des bâches uniquement pour des camions, etc. Exactement comme le monde du textile, il expliquait que toutes les boîtes, elles étaient en train de disparaître. Ils se sont fédérés ensemble, ils ont mis de l'argent dans un pot commun et ils se sont dit, ces bâches, il va falloir apprendre à les recycler, à les réutiliser. Et ces bâches, ils en ont fait des bâches pour le bâtiment, des bâches pour le yacht, des bâches, ils ont eu le marché des Jeux Olympiques sur lesquels étaient écrits des trucs, etc. Et ils ont permis de maintenir toute une industrie qui allait disparaître exactement comme le textile. En fait, ce qui a changé la donne, c'est la coopération. Voilà. Et donc, moi, j'apprends aux entreprises à coopérer. Mais pour coopérer, il faut être ouvert. Pour coopérer, il faut sortir de sa peur. Il faut sortir de sa manière de regarder les choses. Et c'est énormément de résistance au changement. Voilà. Et c'est cette résistance au changement, aujourd'hui, qu'il faut essayer de convaincre, de combattre. Et c'est pas simple. D'où aussi tous les problèmes qu'il y a dans les entreprises, entre les salariés et les chefs d'entreprise. Parce que vous avez un chef d'entreprise qui dit « on va là », mais tous les salariés sentent que c'est la mauvaise direction ou sentent que ça ne va pas le faire, etc., etc. Et comment justement s'instaure le dialogue social à l'intérieur de ces boîtes, parce que tout le monde est perdu. Donc la priorité, c'est de voir ses richesses, de cartographier tous les acteurs avec lesquels on bosse. On a tous des intérêts communs et d'avancer ensemble.
Ah, merci beaucoup. Alors, je sais pas vous, ça donne quand même envie d'aller, hein, parce qu'on se dit que si on prend pas le train, on va peut-être en tomber. Bon, on a un peu débordé, alors on va pas déborder trop, mais je pense que si vous avez des questions, parce que c'est quand même intéressant, profitons-en. Alors, on va se retrouver autour du cocktail qui est gentiment offert par la CCI, mais ça, je laisserai lui faire la conclusion et remercier. Mais si vous avez des questions, voilà, je pense qu'on peut nourrir un peu l'échange. Oui,
on a un souci, voilà. Non, non. Monsieur Girard, vous nous parlez de RSE.
Oui.
Par rapport à votre expérience, est-ce qu'on peut parler de RSO ?
Oui, bien sûr.
Ce qui nous ferait amener aussi à parler marché public. Et du coup, comment les collectivités aujourd'hui évoluent dans une démarche territoriale qui souvent est de plus en plus réfléchie, rapportée à l'économie circulaire, rapportée à d'autres vocations, plan climat, mais qui permet justement d'avoir un dénominateur commun et de travailler sur ces sujets-là.
Oui, bien sûr. Vous avez totalement raison. Bien sûr qu'on parle de RSO aujourd'hui. Et d'ailleurs, même il y a des entreprises, EDF, par exemple, ne parle plus de RSE ou de RSO, ils parlent de RS, responsabilité sociétale. Comme ça, ça simplifie les choses. Il y a eu des directives, sous le dernier gouvernement. Pardon ? Les organisations. C'est la responsabilité sociétale des organisations. Ça veut dire qu'en fait, on dit, c'est pas que les entreprises, c'est aussi les collectivités. Voilà. Mais c'est pareil. Donc, il y a eu des directives qui sont sorties pour pousser les collectivités à faire une politique de tri sur le handicap. aussi de respecter le handicap, mais c'est très minime. Et en même temps, les collectivités, elles aussi, elles ne savent pas où elles vont aujourd'hui, parce qu'on leur, baisse leur budget, on leur demande de pas embaucher non plus, etc., etc. Donc tout le monde est un peu perdu dans ce monde-là. Et tout comme les donneurs d'ordre qui sont les boîtes du CAC 40, ce n'est pas forcément les plus exemplaires. D'où le hiatus qu'il y a aujourd'hui dans le monde politique, entre les citoyens et le monde politique. Il n'est pas simplement politique parce qu'on regarde un politique en disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» mais aussi parce que vous regardez votre collectivité, quelle est l'exemplarité de la collectivité. Nous, on a lancé nos trophées RSE, on a fait les trophées RSO. On a eu zéro collectivité qui ont répondu. Voilà. Alors, il y a l'agenda 21 qui existe, mais quand vous regardez l'agenda 21, en gros, hein, l'agenda 21, pour ceux qui ne savent pas, il y a la RSE. En fait, pour comprendre, parce qu'on rend des trucs hyper complexes qui sont hyper simples. Ça veut dire que le but, c'est de faire développement durable. Donc le but, c'est de faire en sorte que nos enfants, demain, puissent profiter des mêmes matières, des mêmes produits, de ce qu'on a aujourd'hui, demain. Et il y a plusieurs outils. Donc l'État, lui, il met en place le millénaire, c'est des objectifs. Les collectivités, elles ont l'agenda 21. C'est un ensemble de pratiques qu'elles peuvent mettre en place et qui leur donne un agenda 21 et qui leur met un label comme quoi elles sont développement durable. Et les entreprises, c'est la RSE. Regardez aujourd'hui combien de collectivités ont un agenda 21. Voilà. Alors au début, elles sont toutes parties là-dessus. Et puis après, quand elles ont vu la complexité et puis les problèmes des marchés publics et puis tout ça, etc., il y en a plein qu'on laissait tomber. C'est une vraie volonté politique. Et c'est pour ça que moi, je suis, et c'est pas du tout pour faire de la flagornerie, etc., mais je suis ravi de voir un président de chambre de commerce, parce que je peux vous dire que dans ma ville, ça ne se passe pas comme ça. Veiller tard, pas être parti, pas avoir fait son mot d'introduction, être resté jusqu'au bout, pour prendre en compte, et je vous ai vu noter plein de trucs, donc vous n'êtes pas là parce que vous dites « bon, si je pars, je vais me faire engueuler ». On sent que vous avez vraiment compris le truc, quoi. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ça. Et vous avez beaucoup de force ici, si les élus que vous avez et que vous représentez ont cette prise de conscience, parce que c'est vous qui allez appuyer sur le bouton pour permettre justement de faire éclore toutes ces belles initiatives.
D'autres questions ? Je laisse Louis conclure. Alors, et merci.
Tu comprends pourquoi on est copains. Dans le style, il y a des choses qui se disent. Mais c'est vrai que c'est important. Oui, c'est pas une conclusion que je vais faire. C'est plutôt une immense ouverture vers 50 routes. Et il va falloir choisir celle qu'on va travailler. Le concept de être, qui est d'être une plateforme transversale qui a vocation à animer toutes ces problématiques-là, fait qu'à un moment donné, en effet, il y a énormément de choses qu'on peut expérimenter et Philippe est une véritable source de nouvelles voies encore à expérimenter. Donc on va forcément avoir l'occasion de se revoir sur un des projets qu'il a déjà initié pour voir comment on peut le dupliquer ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que ça mérite en effet qu'on prévoit une délégation plus importante qu'on l'a déjà été sur le prochain salon Rouizette. C'est aussi un outil où il y a énormément de choses intéressantes dedans. Un des problèmes de Rouizette, c'est que on n'arrive pas à tout voir. Non pas parce que il a réservé le palais de la part des expos de Versailles et que c'est immense, mais que la densité des choses qui sont dites rend les choix extrêmement difficiles, d'où l'intérêt d'y aller à plusieurs et de pouvoir se répartir. Pour la conclusion, voilà, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que on a des choix à faire, nous, en termes d'organisation, pour pouvoir faire de être un véritable outil transversale qui va avoir cette capacité justement à mettre aussi de la lisibilité dans tout ce qu'il y a. On parlait des labels, des indicateurs, des problématiques, de tous les sujets et des différents angles d'attaque qu'il y a sur cette problématique de la RSE. Aujourd'hui, il y a besoin d'y mettre de la lisibilité. Donc il y a des choses aussi au travers de être qu'on va pouvoir faire. Bien entendu, c'est pas simple. Bien entendu, on a une grande mission de prédicateur pour faire bouger les lignes. Gilles le soulevait par rapport à ça. On sent néanmoins, et Philippe a été témoin, que les tendances sont en train de bouger. Aujourd'hui, on n'est plus regardé comme un extraterrestre. Quand on va aller voir un élu, on va lui dire, on va lui parler comment on peut faire un peu pour faire bouger les lignes des marchés publics. Il a conscience qu'il y a des choses à faire. Il prend pas encore forcément toujours l'initiative de le faire, mais il a envie. Quand on vient parler d'expérimentation sur les marchés publics, on a aujourd'hui des élus qui disent oui, en effet, moi j'ai besoin de faire bouger les lignes et je sais pas comment. Alors soit par simple intérêt électoral en disant je vais mieux me faire valoriser le coup suivant, ou par véritable prise de conscience, mais en toutes les quatre choses, on sent que les choses ont envie de bouger. Maintenant, ça va pas être simple, parce qu'en effet, les services achats, c'est pas les plus souples. Et puis, on a aussi notre part de responsabilité. Vous savez, quand on a commencé à parler de être et des marchés publics avec Jackie, qu'on allait voir les élus, une des premières réponses qui nous disait, c'est vous êtes bien gentil, vous avez raison que le mieux disant, il est légal. Mais il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise le mieux 10 ans, celui qui a été le moins 10 ans et qui n'a pas été retenu, c'est-à-dire une entreprise, vient aussi nous chercher des poux dans la tête. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus au niveau du monde de l'entreprise réclamer une attitude sociétale des collectivités avec une approche mieux disante et aller coller au mur le premier élu qui nous a parmi le marché parce que ce coup-ci, on avait le coup de bol d'être le moins cher. Donc là aussi, il y a du travail de fond à faire. Et ce curseur, je crois qu'on va véritablement pouvoir le travailler par les approches pragmatiques qu'on va faire sur un indicateur RSE au travers des marchés. Et en effet, il va falloir aller chercher les compétences partout où elles sont et les mettre en musique. C'est l'enjeu qu'on a. Pour ça, l'enjeu, ça va être de donner aussi une autonomie financière à la plateforme. Parce qu'il va falloir aussi pour ça en avoir les moyens. Donc ça va être l'enjeu des prochains mois. Ça va être de trouver, après le financement qu'on a pu obtenir pour lancer la plateforme, le financement qui va permettre de se donner les moyens de porter nos actions. Donc on travaille aussi là-dessus. Et puis, en effet, il y a un certain nombre d'événements que pour mettre en lumière ce qu'on fait qui vont pouvoir être portés. Il y a de belles idées qui ont été réalisées depuis les quelques années où Philippe est investi sur le sujet et qu'on va pouvoir essayer de reprendre avec lui.
Comme je ne veux pas boucler la conclusion à ta place, je prends Vas-y. Juste la parole juste avant pour te laisser bien ce mot de la fin. Il y en a qui me chuchotent reset. Donc reset, c'est pas reset le sourire, hein, c'est reset. Dans reset, il y a responsabilité sociétale des entreprises, il y a entreprise et territoire, et c'est aussi la remise à zéro de tout. Et c'est superbe de venir l'année prochaine, mais vous pouvez déjà vous inspirer de ce qui a été fait ces dernières années parce que tout est filmé et il y a énormément de vidéos aussi. Donc je vous propose d'aller sur le site forumreset.com, vous pourrez trouver plein de vidéos, plein d'interviews de ce qui était en avant par rapport aux thématiques qui sont énoncées. Les années d'avant, c'était les actes, donc c'était les actes écrits. Et là, cette année, tout est filmé, tout est sur YouTube aussi, quoi. Voilà. Donc profitez-en pour vous inspirer.
Donc pour le mot de la fin, donc un merci à Jacques pour la mise en œuvre de la création de la plateforme, puisque ça en a été l'artisan opérationnel. Merci à lui aussi pour la préparation de cette assemblée générale. Merci à vous tous pour vos engagements passés, présents et surtout ceux à venir. Pour qu'on puisse continuer à avancer, parce qu'on l'a bien vu, il y a une telle diversité dans les acteurs dans la salle, qu'il y a toute cette harmonie qu'on va pouvoir mettre en place au travers de être. Et puis dernier mot de la fin, merci à Dominique, à Cécile de nous avoir accueillis, et sauf erreur au niveau technique, nous redescendons au moins un
zéro.
Au zéro, d'accord.
Zéro. C'est le zéro.